1970, la disparition de Gilles Caron.
J'étais ravi de le rencontrer à ce moment-là, j'étais sûr, Hubert m'avait dit « mais oui, oui, il va aller te voir, vous allez vous rencontrer ». Et puis le FBI était là avec l'ambassadeur de France, il m'a dit « c'est vous Lafont, descendant de l'avion ?» J'ai dit « oui, vous travaillez pour Gamma ?» J'ai dit « oui ». Il m'a dit « on a une triste nouvelle, on est sûr que Gilles Caron était enlevé ».
C'est moi qui ai prévu l'agence. J'ai entendu à 6h30 à la radio, Gilles Caron a disparu. Et j'ai appelé l'agence à 9h. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Et voilà.
Ça a été un choc. Bon, on voulait pas y croire. C'était pas possible. Il avait subitement disparu. On n'a jamais eu la moindre nouvelle.
Il y a 50 ans, le photojournaliste le plus prometteur de sa génération disparaît au Cambodge, sur la route numéro 1, entre Phnom Penh et Saigon. Il a 30 ans. Pendant près de 3 décennies, ses reportages vont dormir dans les archives, avant que sa famille crée la fondation Gilles Caron pour mettre en lumière le subtil talent du photographe. Les photographes Gilles Caron, Raymond Depardon, Hugues Vassal, Léonard de Rémy et Hubert Henrotte sont les fondateurs de l'agence de presse Gamma. Tous les Français connaissent au moins une photo de Gilles Caron. Le portrait d'un Cohn-Bendit rigolard face à un policier en mai 68. Une icône, une affiche. Avec Gilles Caron, Gamma va initier dans les magazines du monde entier l'ère du photojournalisme à la française. Paris va devenir, pendant 30 ans, la plaque tournante des reportages photos, la capitale du photojournalisme, et Caron sera un peu oublié par sa profession. Vous allez entendre ses anciens confrères. Tous ceux qui ont accompagné la courte vie professionnelle de Caron sont là. Ils parlent de Gilles, ce grand disparu. Mais vous allez entendre également Marianne, sa femme, sa veuve, éternellement en deuil. Pour commencer, elle nous raconte sa rencontre avec celui qui va devenir un photographe de légende.
Bien, on avait 13 ans et demi. Il était au collège avec ma sœur et ma sœur lui a dit « tu devrais écrire à ma sœur, elle est très très gentille, elle a exactement le même âge que toi ». Donc il m'a écrit, voilà, et il m'a écrit à 13 ans et demi qu'on se marierait et qu'on aurait des triplettes. C'est drôle hein, quand même. Et moi je le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Et puis voilà. Il fait ses premières photos en 64, mais il avait jamais fait de photographie avant. Il a commencé à trouver ça intéressant. Il s'est dit qu'il fallait qu'il apprenne la technique, donc il a appris quoi. Il a vraiment appris à faire des photos parce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait faire. S'il avait trouvé ce qu'il voulait faire, il a démarré presque tout de suite. Disons, il a fait des photos pour lui dans le nord de la France. Moi, ce que j'appelle ces photos d'apprentissage. Il est allé à piste parce qu'il voulait apprendre plus. Il faisait même 3 reportages par jour. Tu vois, il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. En un an, il a fait à peu près plus de 1000 films, je crois. Il n'arrêtait pas, quoi.
Alain Dupuis, commercial de l'agence Apis. En 1973, après la scission des actionnaires de Gamma, il deviendra directeur commercial de Sigma avec Hubert Henrotte.
Moi, j'avais quand même Gilles Caron, qui était rentré chez Apis. Il avait quelque chose qui bouillait en lui déjà. Il sentait donc... il a quitté aussi Apis. Et il est rentré, naturellement, avec la grande équipe, quand Gamma s'est monté.
Il faisait tout chez Gamma, hein, tout, tout, tout. Il faisait tous les reportages possibles et inimaginables, et il trouvait qu'il n'était pas bon en charme, parce qu'à l'époque, on parlait de charme, on ne parlait pas de people, c'était quand même plus joli de faire du charme, non ? Bon, enfin, et il trouvait qu'il n'était pas très bon, c'était juste avant d'entrer à Gamma. C'était pour se perfectionner, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas bon en charme, quoi. Mais ce n'était pas son truc, il trouvait qu'il fallait qu'il se perfectionne. Raymond l'a remarqué sur un reportage... à Fézin, je crois, sur une raffinerie à Fézin qui était en feu. Il s'est dit, il bouge bien. Il est entré à Gamma avant la fondation de Gamma. Il était là tout de suite parce que Gamma a démarré le 1er janvier 67. Et Gilles a fait des photos en décembre 66. Voilà comment ça a commencé.
Hugues Vassal, photographe à France Dimanche, est l'un des fondateurs de l'agence Gamma.
Ils sont venus dans l'organisation de cette société, Depardon et Gilles Caron. Après est venu, un peu plus tard, Monteux. Bon, Monteux nous a aidés, parce que c'est lui qui avait repéré le talent de ces gens-là. Moi, mon talent était un talent d'être, non pas un grand photographe, mais j'étais dans tous les grands coups du show business. Léonard de Rémy et moi-même avons très largement nourri Gamma les 6 premiers mois, alors qu'eux étaient en construction, ils allaient se révéler. Mais bon, ils étaient en construction, Caron était en construction, on avait repéré qu'il était bon, Monteux avait repéré, tout le monde était d'accord. On savait que Depardon et Caron étaient les hommes liges de la société, encore fallait-il qu'ils se révèlent.
Évidemment, ça a démarré très fort dès la première semaine.
Hubert Ambrotte, gérant fondateur de Gamma.
Les journaux étaient ébahis par ce qu'on faisait. Et nous, on a très vite fait rentrer de l'argent, hein, très très vite. Pas des sommes colossales au départ, bien sûr, puisqu'en fait, il n'y avait que Depardon, Dorémy, Vassal.
L'agence prenait beaucoup d'importance. Tout le nouveau staff était de plus en plus dominant.
Raymond Depardon.
Ils ont accordé les mêmes conditions qu'au staff fondateur. Hubert devenait la figure incontournable et très puissante de l'agence. On était débordé par le succès aussi.
Là, on avait un papa qui s'appelait Enrotte et qui faisait bien son boulot. Et on n'avait personne qui nous apportait des pellicules. On vivait de nos propres productions. On ne faisait pas travailler d'autres photographes que nous-mêmes, c'est-à-dire Depardon, Caron, Léonard de Rémy et moi-même. Ça a duré 4-5 mois, 6 mois. Un jour, j'ai téléphoné à Enrotte de Moscou. Il me dit, je ne peux pas t'avoir longtemps parce que Gilles Caron vient de partir il y a la guerre des 6 jours.
Il a été envoyé en Israël faire un défilé de mode de Sylvie Vartan. Et quand il est à Tel Aviv, il regarde et il voit que la ville est dans une effervescence absolument dingue. Des chars, énormément de militaires dans les rues, etc., etc. Il se dit, il est en train de se préparer quelque chose d'important. Il rentre à Paris à porter ses films, consciencieusement, hein, et le lendemain matin, hop, il reprend un autre avion pour Tel Aviv, et là, il arrive au moment où les Israéliens commencent à envahir le Sinaï. Donc, il traverse le Sinaï avec les troupes israéliennes. C'est là où il a réalisé les plus grandes photos qui ont été faites sur la guerre des six jours par n'importe qui. Et puis, non content de ce succès, il décide de partir au Vietnam. Dans la même année, c'est-à-dire, la guerre des six jours, c'est sauf erreur en juin, je crois, 67. Et il part en août, je crois, quelque chose comme ça, pour Hong Kong d'abord, où il fait un reportage très, très, très sympa sur Hong Kong. C'était pas encore très connu, Hong Kong. Et là, il part au Vietnam. Et au Vietnam, il a fait des images absolument extraordinaires, dont la colline 875, qui a failli très mal tourner, parce que il envoie ses films dans un avion dont je ne citerai pas le nom de la compagnie, qui tombe en panne à Marseille. À Marseille, moi j'appelle toutes les demi-heures, l'avion il repart ou il repart pas, etc. Parce que c'était un lundi, les matchs bouclés comme aujourd'hui, le lundi soir. Donc je me disais, ça va arriver trop tard. Et à l'époque, match, on n'attendait pas une semaine. Un sujet de grosse actualité était grillé la semaine suivante par un autre, et même s'il y avait des photos extraordinaires, c'était oublié. Et finalement, l'avion ne repart pas. Je réussis, après 150 téléphones, à faire transférer le paquet sur un autre vol, et il finit par arriver. Mais le lendemain, sur le moment, je n'ai pas voulu informer Gilles de cette catastrophe, parce que je me dis, il va craquer, là, s'il apprend ça. Et effectivement, on n'a pas fait match. Mais on a fait le monde entier.
À la fin des années 60, Gilles Caron est devenu le photojournaliste star de Gamma. Les magazines photos lui ont consacré des portfolios importants. Ses succès ont attiré à l'agence de nombreux, trop nombreux, photographes pigistes. En 1970, la concurrence interne est devenue farouche à Gamma.
C'était un très bon photographe. Il pouvait faire du théâtre, mais on ne savait pas qu'il allait faire aussi bien les guerres. Il aimait ça, il était courageux, il était intelligent, était le plus courageux de nous tous. Et très intelligent dans le placement, très intelligent dans le réflexe aussi. Il avait une notion, on pouvait avoir du réflexe, moi je pense que j'en ai même encore, mais il était en liaison directe entre le crâne et le bouton. Direct, c'était, il n'y avait pas un cheminement, il n'y avait pas de perte de temps.
Il avait tendance à tirer la couverture à lui. Quand même.
Jean Monteux, qui était commercial à l'époque à l'agence Gamma, et deviendra directeur après 1973.
C'est vrai qu'il était très bon, mais il y avait le fameux cahier dans le portage, et Gilles y rayait des noms et mettait son nom, ce qui ne plaisait pas d'ailleurs.
Surtout à Henri Bureau.
Surtout, oui.
Ces deux-là étaient dans une concurrence dingue.
Absolument. Sauf que Gilles était quand même meilleur photographe, et de loin.
Je voyais très bien qui c'était ce gars-là.
Jérôme Instinct a connu Gilles Caron à Nanterre avant les événements de mai 68.
Pas très grand, avec ses un peu bouclé comme ça, une chevelure un peu bouclée, sympathique, très vif, quoi, comme un écureuil.
Il est arrivé en avril de 67, et là, ça a été une fusée. Mais Gilles faisait tout, hein, il voulait tout faire, il avait un appétit absolument incroyable. Et aimait tout, le People, le News, le Hot News, etc. Il était, comment dirais-je, passionnant, dynamique, s'intéressant à tout, voyant tous les films, tous les musées, toutes les expositions. Après, c'est lui qui a commencé à trouver les idées, tout seul.
Ça a été une très, très fantastique concordance des temps. Gilles voulait faire, il voulait réaliser, mais il voulait pas de chef, il voulait être libre. Et l'agence lui a permis ça. S'il n'y avait pas eu l'agence, il n'aurait pas pu travailler comme ça, il n'aurait pas pu exploser si vite. Et s'il n'y avait pas eu Gilles, l'agence n'aurait pas démarré si vite. Parce que ça veut dire, au bout de 6 mois, à peine, 5 mois, l'agence était connue dans le monde entier.
Floris de Bonneville, l'historique rédacteur en chef de Gamma, embarque Gilles Caron au Biafra. Une guerre postcoloniale d'influence entre la France et la Grande-Bretagne. Au Biafra, Gilles Caron travaille côte à côte avec son éminent concurrent Donald McCullin.
Quand il y a eu l'histoire du Biafra l'année suivante, on était les seuls, on a été les seuls.
Hubert Ambrotte.
Ça, c'était Floris de Valville, le nouveau rédacteur en chef de Gamma, qui avait trouvé l'information dans un petit article dans Le Monde. Il a monté l'histoire, il a été extraordinaire, hein, parce qu'il fallait pouvoir y aller au Biafra, il n'y a pas de vol. Hein. Et ça a été encore un des grands scoops faits par Gilles, parce que c'était normal, on lui donnait les gros coups, c'était logique, hein, et il nous a pas déçus.
En fait, on est parti là-bas,
Floris de Bonneville,
pour essayer de rapatrier le corps de Marco Herbach, qui était un photographe pigiste de Gamma, qui, grâce à son père, qui trafiquait un petit peu l'armement, etc., était parti au Biafra faire le reportage de cette guerre totalement inconnue. Donc, avec Gilles, nous sommes partis avec un avion de munitions. On s'est retrouvés avec des caisses de munitions au départ pour aller arriver donc au Biafra, où on est resté une quinzaine de jours. Ensuite, Gilles y est retourné avec Raymond un ou deux mois plus tard, je pense. C'est vrai que ça a été la première fois où j'ai participé un petit peu à un théâtre de guerre. Bon, c'est toujours impressionnant la première fois. Et d'ailleurs, Gilles a fait une photo assez amusante. On était dans un espèce de caniveau. Il y avait un malheureux bombardier qui survolait Port Harcourt. Et on s'est tous retrouvés couchés comme des... Enfin, pas Gilles, parce que lui, il faisait des photos. Et il m'a fait une photo de moi en train d'être courbé en deux dans ce caniveau. Bon, enfin, c'était plutôt drôle.
Robert Pledge, aujourd'hui directeur de l'agence américaine Contact Press Images, est alors un jeune journaliste spécialiste de l'Afrique. Il a fait connaissance avec Caron et Depardon peu de temps avant.
On est parti au Tchad le 12 janvier 1970. Tous les quatre, on est à l'aéroport du Bourget, on attend le vol UTA qui part sur N'Djamena et qui s'arrête à Tripoli. Alors nous descendions à Tripoli. Depardon parle à Caron, on lui dit, ils étaient en train de parler entre eux, chose qui moi m'échappait complètement. Tu vois, je les regardais, moi j'étais vraiment l'anthropologue. Je regardais ces gens qui appartenaient à une étrange tribu, qui parlaient une autre langue que la mienne. Et c'est comme ça que j'ai approché, c'est comme ça que je me suis intéressé en fait à la photographie, c'est de cette perspective-là. J'ai aperçu que n'était pas mon monde et qu'il fallait le découvrir, quoi, qu'il y avait des individus assez étranges mais intéressants, et qui avaient des rituels très particuliers, une manière de parler qui était la leur, etc. Enfin, il parlait de choses et d'autres, je sais pas, j'étais là, donc j'écoutais, j'essayais de comprendre, et de pardon, mais il y a 40 ans, que regarde là-bas qui est arrivé, et avec un peu d'inquiétude dans la voix, car on se tourne et dit, ah merde, je me demande ce qu'il fout là, 40 ans, je vais aller voir pourquoi il est là, etc. Donc il disparaît, je bavarde avec le pardon, et il revient avec un personnage avec qui il bavarde pendant quelques minutes, et ils reviennent vers nous, une présentation de fond, et cet inconnu mettant la main et dit « Je suis Donald McCullin ». En fait, mon immersion dans la photographie a commencé ce jour-là, le 12 janvier de 70, avec la rencontre de ce qui sera trois géants quoi, du photojournalisme. Ils étaient au Moyen-Orient en 67 en même temps, puis ils avaient fait aussi le Vietnam, le Biafra, l'Irlande. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient personnellement, et avec, je veux dire, Caron avait une admiration et un respect pour McCullin extraordinaire. Et ça, c'est ma rencontre à la photographie, ma rencontre avec Caron. C'est vraiment là qu'a commencé ma relation avec Caron d'une manière un peu plus approfondie. Caron et moi, on était dans une Jeep et on est tombé en panne en plein milieu du désert, quoi. De Pardon et Honorin étaient dans le minibus Volkswagen avec tout l'équipement, ils étaient en avance, ils étaient partis un peu plus tôt et nous on suivait. Et au milieu de la nuit, ils ont compris qu'il y avait un problème, ils ont fait demi-tour, ils sont venus nous voir et voilà. Donc, même quand on conduisait, Caron parlait un peu de sa vie, un peu de la mienne, mais c'était pas quelqu'un qui se confiait facilement ou qui aimait le bavardage superficiel, etc. Bon, le soir, il fallait bien s'arrêter quelque part, et on s'est retrouvé dans cette oasis d'Aoussou, perdue dans la montagne. Il y avait une école abandonnée, qui n'avait ni toit, ni fenêtre, ni porte, par suite de bombardements, d'ailleurs, de l'aviation française, contre cette école qui était suspecte d'avoir été occupée par des rebelles. Les rebelles, c'était les Toubou. C'est là qu'on s'est installé, en sac de couchage, on a dormi par terre, comme toujours. Et un matin, tôt, vers 6 heures du matin, De Pardon et Honorin sont partis vers le village, vers l'oasis, qui était à, pas à 500, 600 mètres, 800 mètres. Et nous, on est restés avec Caron à l'école. Et tout d'un coup, Caron dit « Merde, on tire dessus ». Une balle avait frappé la toit de la Jeep et avait rebondi et il y avait ce petit bruit métallique. Gilles prend ses caméras et il plonge dans la maison. Il plonge dans la porte ouverte parce qu'il n'y avait pas de porte d'ouverture. Boum, à plat ventre comme ça. Hop. Alors moi, je le suis, je vois ce qu'il fait, je plonge derrière lui. Là, on comprend qu'effectivement, on est cerné. Avec nous, il y a le leader du groupe, Rebelle, et puis différents autres membres de son équipe, dont un vieux monsieur. Ma mère l'appelle et lui demande d'aller couvrir la porte. Donc le mec se lève, prend son fusil, il fait quelques pas, arrive au milieu de la pièce et une balle l'atteint dans le cou. Pouf! Il fait une pirouette sur lui-même et il tombe plat sur le dos. Et une petite fontaine de sang jaillit de son cou. Alors, Gilles, il s'est dit, cette fois-ci, on est foutu, cette fois-ci, on s'en sortira pas, j'ai fait trop souvent. Et la grande crainte de Caron, c'est qu'une grenade ou un mortier allait nous tomber sur la gueule par l'ouverture du toit. Il y avait un superbe ciel bleu au-dessus de nous, on regardait ça, un grand rectangle bleu, et ça, c'était sa crainte. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, déboulonne par la porte d'école Honorin, avec son agra, blanc comme un neige, haletant, etc. Moi, j'ai cru qu'il était blessé, Gilles aussi, donc on s'accroupit, on s'approche de lui, et lui, il dit, on est foutu aussi, tu vois, la même chose. notre guide nous servait de fixeur, traducteur, se mettre à hurler, cessez le feu. En tamache avec un, il y a des journalistes français ici, un cessez-le-feu s'établit, un échange, une conversation a lieu, ça prend du temps. Et au bout d'une heure, deux heures, on nous dit qu'il faut sortir les uns derrière les autres, les mains en l'air, avec un tissu blanc dans la main. Alors Gilles, qui était le plus proche, sort le premier, ses caméras avec lui, et puis il avait un bout de turban blanc qu'il a pris, hop, c'est parti avec. Un long moment se passe. Le second est appelé à tir, c'était Honora qui sort, qui trouve un sac en plastique blanc, le prend, et un long moment se passe aussi. Et en fait, c'est mon tour, les bras en l'air, je contourne la jeep, et Depardon, pensant là, qui est dans l'oasis, il voit tout ça se dérouler. Et quand il me voit partir dans le troisième, il se dit, je vais les rejoindre. Et donc, un peu à la surprise de tout le monde, il sort de l'oasis, il vient et il se met à marcher en diagonale, donc vers l'endroit où nous, on était. Il nous a rejoints et c'est comme ça qu'on a été regroupés. Voilà.
Gilles Caron, Raymond Depardon, Michel Honorin et Robert Plaige sont prisonniers des forces gouvernementales tchadiennes. Alors soutenus, le mot est faible, par l'armée française. Lors de leur passage à Tripoli, sans en parler à ses confrères, Michel Honorin a informé l'ambassadeur de France. Ce dernier est un vieux colonial, ami du chef des renseignements de l'armée tchadienne. Grave erreur. Les prisonniers sont expédiés à Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, et pendant cette longue détention...
Le soir, Caron et moi, on s'est mis à marcher et Gilles a parlé. Comme ça. C'était un ciel étoilé, et il a eu besoin de parler, de le raconter... sa vie, ses inquiétudes, ses angoisses, le fait qu'il ne voulait plus faire ça, qu'il avait eu beaucoup de chance au cours de sa vie, la baraka, il disait, mais que cette fois-ci, c'était fini, qu'il ne referait plus, qu'il avait Marianne et ses deux gamines, et qu'il était temps qu'il s'occupe d'elle, qu'il allait travailler à partir de Paris, travailler différemment, travailler sur d'autres sujets, faire autre chose, qu'il n'allait plus partir, couvrir des conflits qu'il avait pris suffisamment de risques et sans doute trop, et qu'il y a un moment donné où la chance est contre toi. Et voilà, une longue sorte de confession comme ça. Moi, j'étais un peu étonné.
Le Tchad, ça a été terrible. Je crois que ça a été très, très éprouvant. Mais il est parti.
Entre le Tchad et le Cambodge, Gilles Caron part à Hambourg avec Floris de Bolleville pour faire un reportage sur le roi du sexe. Et puis d'une manière un peu formelle, il invite Robert Plaige à déjeuner sur les Champs-Élysées. Bob, comme tous l'appellent, est surpris qu'il parte au Cambodge. Il lui a dit le contraire au Tchad. Et pareillement, contrairement à toutes les habitudes, Depardon l'accompagne à l'aéroport du Bourget pour prendre le vol vers Phnom Penh. Le vol est plein, Gilles s'énerve, il crie, il embarque finalement.
Gilles, malheureusement, je n'ai jamais connu, parce que je devais le rencontrer à Luang Prabang au Laos, et lui était à Phnom Penh, et de là-haut de Phnom Penh, sur, de Hanoï, venant de, je m'excuse, de Saigon, et on s'est raté, et le pauvre, j'étais ravi de le rencontrer à ce moment-là, j'étais sûr, Hubert m'avait dit, mais oui, oui, il va aller te voir, vous allez vous rencontrer. Et puis, le FBI était là avec le... correspondant de la France, l'ambassadeur de France, m'a dit, c'est vous Lafont, descendant de l'avion? J'ai dit, oui, vous travaillez pour Gamin? J'ai dit, oui. Il m'a dit, on a une triste nouvelle, on est sûr que Gilles Caron était enlevé. Donc j'ai appelé Hubert tout de suite, qui me dit, oui, oui, ça y est, on a eu le... on le sait, c'est exact. On était tous catastrophés.
C'est moi qui ai prévu l'agence. J'ai entendu à 6h30 à la radio, Gilles Caron a disparu. Et j'ai appelé l'agence à 9h. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Et voilà. La disparition, ça n'a rien à voir avec la mort. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, tant que t'as pas de preuves, la mort existe, mais elle n'existe pas non plus. Mais Gilles, il n'y a jamais eu rien à quoi se raccrocher. À une époque, on a dit que on avait vu des Blancs se diriger vers le Nord. Je pensais que c'était des journalistes, mais ça n'a jamais été vérifié. Je pense que peut-être qu'on saura dans une génération ou deux, si on a le temps d'arriver jusque-là. Moi, je ne saurais jamais, mais Peut-être qu'il y a des gens qui savent, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui savent pas, qui sachent pas, tu vois. Donc, mais la région à l'époque était, il y avait sept bandes, je sais pas comment on peut dire, cette rivalité différente pour le lieu. Rivalité, c'est faible, hein. Mais c'est combat différent. Mais peut-être qu'un jour on saura.
Ça a été un choc. Bon, on voulait pas y croire, c'était pas possible. Il avait subitement disparu. On n'a jamais eu la moindre nouvelle. On a fait toutes les enquêtes possibles. Personne n'a jamais rien su. Il y a des gens qui ont raconté une histoire. J'ai vu sa voiture. Ça. C'était absolument faux. Donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et nous avons vécu pendant au moins 2 ans, voire 3, l'espoir de le voir revenir. On a vécu avec ça. Sa femme aussi, sa famille aussi, ses filles aussi. Mais on était tous imprégnés de ça, et pas seulement Raymond Depardon, pour qui était très proche de lui, vraiment très proche. Moi, j'étais proche aussi. Je me souviens d'une lettre que je lui ai envoyée après la colline 875, parce que les photos qu'il a faites m'ont fait très peur. Il était quasiment devant les Américains qui tiraient. Et tous les arbres étaient abattus, tout était détruit. Gilles, il faut vous calmer, parce que là, il va arriver un pépin, ça va être très grave pour nous tous, pour vous, mais pour nous tous aussi. Donc, je vous en prie, faites attention à vous.
On était déséquilibrés. Bien sûr, il y avait plein de gens qui voulaient prendre sa place. Gilles Caron, à faire des reportages de partout, ce qui a été le cas, bien sûr, puisqu'il y a eu un certain nombre de conflits qui ont... Après, je sais pas quoi, ça a été le bureau a explosé, tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, Gilles avait quand même une longueur d'avance. Parce qu'il avait, d'abord, il était plus âgé qu'eux, et que moi, mais comme tout le monde, et il avait une réflexion déjà un petit peu, comme il avait fait ce long service militaire en Algérie. Et puis il avait vraiment une revanche à prendre, un peu trop peut-être, parce que voilà, et en fait, évidemment, il s'est enfermé dans quelque chose qui était très dangereux, qui est mais comment ça se fait que tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas au Cambodge, ou genre esprit d'Elfronière. Et ça, c'était dangereux, parce qu'après, il n'arrivait pas à trouver une alternative à ça.
Jérôme Instin est devenu assistant de Floris de Bonneville en 1973, soit 3 ans après la disparition de Caron.
Il venait de disparaître et on ne savait pas qu'il était mort. Donc il y avait une partie de l'énergie de Raymond, une grande partie de l'énergie de Raymond qui consistait à essayer d'en savoir le plus possible sur ce qui était arrivé à Gilles Caron. Donc ça, c'était quelque chose de très présent dans l'agence. Un photographe disparaît pendant qu'on ne sait pas s'il est mort, où il est mort, quand il est mort, pour quelles raisons, dans quelles circonstances, etc., etc. Il y a une espèce d'inquiétude diffuse, commune à tout le monde, qui est vraiment prégnante, qu'on sent, qui fait partie de l'atmosphère et de l'ambiance, quoi. Et Caron, encore plus que d'autres.
Hubert est venu me voir quand il a écrit son livre. C'était en Bourgogne. Il est venu me voir en Bourgogne. Et il m'a dit qu'il était tellement content qu'il soit plus là pour plus leur prendre l'air, si tu veux, pour plus leur bouffer la place, quoi. Ça m'était jamais venu à l'idée, une chose pareille. Et personne ne m'a téléphoné, sauf Depardon à l'époque, que j'ai vu jusqu'à la scission, je crois, ou un peu après, je sais plus. Et puis Simon Pietri qui venait me voir, et voilà, c'est tout. Pas un mot, pas un mot. Et la première exposition qu'ils ont faite, c'est à 20 ans pour la disparition de Gilles, quand Favreau a fait une exposition au musée de l'Élysée à Lausanne avec Willy Ronis, où ils ont fait une exposition dans la cave de l'agence, où il y avait 3 photos minables sur un mur. Dans la cave, avec une petite feuille stéréotypée, voilà, c'est pour décrire les photos. Mais personne n'a vu que moi, cette expo Légende Gamma, tu parles, c'était totalement... Personne n'a rien fait. Ah non, ils ont été parfaits, hein. Parfaits, vraiment. Tous les photographes qui étaient là, on avait envie que Gilles soit mis à sa place, si tu veux. À la place qu'il aurait dû occuper. Sauf qu'en Roth avait fait une réelle amitié avec Gilles, tu vois. Il aimait beaucoup Gilles, et Gilles aimait bien Enfin, je pense qu'ils s'entendaient bien. Des fois, ils s'entendent bien dans le boulot, dans la manière de travailler, dans la même. Roth avait été photographe aussi, hein, au Figaro. Donc, non, ils avaient une grande et belle manière de bosser ensemble, je crois. Et puis il y avait Depardon où ils étaient tout le temps ensemble. Ils étaient pas tout le temps ensemble, mais dès qu'ils étaient à Paris ensemble, ils étaient ensemble, tu vois. Et je pense que c'était Depardon que Gilles racontait le plus. Mais j'ai jamais parlé de Gilles avec lui. Il y a des années, je sais plus quand, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tu voudrais qu'on parle de Gilles, parce que, et il m'a dit, j'ai tout oublié. Pof, point final. Il en parle à tout le monde, mais avec moi, c'est pas possible.
François Lochon arrive à Gamma en 1978, au moment où Raymond Depardon quitte l'agence pour rejoindre Magnum. Aujourd'hui, François Lochon fête le 6 avril 2020 les 10 ans de son agence Gamma Raffo, née des faillites des agences Gamma, Raffo, Keston, etc.
En 1969, je vois sur la façade d'un kiosque un magazine qui s'appelle Reporter Objectif. C'était le numéro 1. J'étais fasciné de photos déjà à l'époque. J'avais 15 ans. J'achète ce magazine. Et à l'intérieur, il y avait un reportage qui célébrait les 2 ans de l'agence Gamma, avec 4 portfolios, Caron, Bureau, Vassal et Depardon. C'est 10-12 pages. J'ai encore le magazine d'ailleurs, je l'ai conservé toute ma vie. Oh, c'est assez formidable la vie de ces mecs. Et franchement, dans ma tête, je dis, quand je serai grand, je travaillerai avec eux. Et puis je l'ai fait.
À la douleur de Marianne, au silence des uns et des autres, aux bassesses et aux rivalités d'égo souvent démesurées des photographes, va succéder un très long silence. 3 ans après sa disparition, le groupe hétérogène des associés de Gamma explosera et donnera naissance à Sigma, et par rebond à Sipa Press. Le photojournalisme à la française connaîtra 25 ans de gloire sans que le nom de Gilles Caron soit honoré par sa profession. 8 ans après sa disparition, il sera reconnu mort par un acte judiciaire.
Pour te dire à quel point ils étaient contents qu'il ne soit plus là, c'est que en 2006, ça raconte parce que c'est vraiment une histoire très dure pour moi. En 2006, il y a eu à Arles, il y a eu l'expo de Pardon où il y avait les Maculine et Gilles qui exposaient ensemble. Le lendemain du vernissage, c'était le matin tôt, je me promène dans le lieu, dans les ateliers. J'étais seule. Hein. Il y a un type qui vient vers moi et qui me dit, vous êtes Madame Caron, Marianne Caron? J'ai dit oui. Il me dit, vous savez, De Gaulle en Roumanie, la photo où il y a une mèche qui part. Eh bien, c'est moi qui l'ai faite. Non, il ne m'a pas dit c'est moi qui l'ai faite. Il me dit, c'est bien, c'est la mienne qui est parue. Mais j'ai eu beaucoup de peine quand il est parti. Il n'a pas pu s'empêcher, ça fait 36 ans après, de venir me dire qu'il avait été le meilleur que le meilleur. Et j'ai honte pour lui. Et pour moi, ça a été un... Je me dis, mais c'est pas vrai. Ça existe encore. 36 ans après, il en veut encore à Gilles d'avoir été meilleur que lui toutes les autres fois. Et ben voilà.
Ce podcast a été réalisé par Jean-Louis Vinet avec les sons de Michel Puech, dont l'interview exclusive de Marianne Caron-Montelli est enregistrée en mars 2020. De Robert Pledge, Jérôme Instin et Jean Monteux cette même année. De Floris de Bonneville en 2019. D'Hubert Enrotte, Hugues Vassal, Raymond Depardon et Jean-Pierre Lafont en 2013 à l'occasion de l'anniversaire de la crise des associés de Gamma. C'est une production du blog À l'œil, journalisme et photographie.